Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, Laure Grand-Besançon et Jeanne Paravert, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Paul Percheron. La gourmandise ce matin m'a été suggérée par une consoeur de France Culture, la féerique Meryl Moneghetti. Il s'agit d'une nouvelle de jeunesse d'Émile Zola ayant inspiré le scénario des Aristochats de Walt Disney. La nouvelle, publiée vers 1864, est intitulée Le paradis des chats et met en scène un chat angora s'exprimant ainsi. Au milieu des douceurs, je n'avais qu'un désir, qu'un rêve, me glisser par la fenêtre entrouverte et me sauver sur les toits. Les caresses me semblaient fades, la mollesse de mon lit me donnait des nausées, j'étais gras à m'en écœurer moi-même et je m'ennuyais tout le long de la journée à être heureux. Le chat bourgeois blasé entreprend de fuguer mais ne tarde pas à regretter son ancienne prison douillette. Un lien vers le texte sera mis sur le site de l'émission. Notre apothicaire de l'âme joue la comédie pour la première fois à 5 ans sous la direction d'Agnès Varda dans le film Kung Fu Master. Puisque chez elle, c'était la seule place qui restait, cette créature fantaisiste, farouche et solitaire trouve la sienne en étant celle qui fait rire. Mais qu'elle écrive, arrange, dessine, chante ou joue, elle compose avec la souffrance sans jamais l'esquiver. Ses chansons charrient des larmes, du spleen et une vulnérabilité suave. Je suis pleine de passion même si je sais que cela fait mal, affirme l'artiste qui se métamorphose parfois en mannequin styliste, poétesse ou rêveuse. Et j'ajoute une information qui, s'il le fallait encore, la rend irrésistible. Elle a nommé son bulldog anglais Gustave pour Courbet, Eiffel et Flaubert. Bonjour Loudoyon.
Bonjour.
La première question, vous vous y attendez, Loudoyon, c'est quel est votre rapport à la mélancolie, sachant que j'ai lu dans diverses interviews « Je ne peux pas écrire quand je suis heureuse ».
Oui, je pense que... Je sais qu'il y a vraiment deux écoles là-dessus et qu'effectivement c'est compliqué c'est presque l'école la plus poétique et la plus fantasmée de dire qu'il faut aller moyen pour écrire. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai tendance à croire que le bonheur, quand il est là, nous rend très présents à ce qui se passe finalement. Ce qui fait que moi je vois, moi qui écris et dessine, c'est des moments où on sort du temps. C'est des moments d'observation. C'est rare qu'on ait envie d'observer quand on est en train de s'éclater et que tout va très bien, d'une certaine manière. Ou alors, ça serait vraiment tordu. Ça serait comme les gens qui sortent les appareils photos pile au moment où, en fait, il est en train de se passer quelque chose. Donc, oui, j'ai tendance, quand je me mets en observation, c'est que ou la vie m'a foutu dehors ou je me suis foutu en dehors de la vie, mais quelque chose comme ça.
Mais vous dites, malgré tout, Loudoyon, que... Je vous cite, hein, « Grâce à mes albums pas très gays, je suis plus souriante et rigolote au quotidien. Après, la question reste, ne s'arrange-t-on pas pour avoir des vies tragiques afin d'avoir des choses à raconter ?»
Ben, je pense que c'est vrai aussi. Après, c'est des caractères. Je pense qu'il y a... Oui, j'ai un caractère où j'aime pas ce qui est très fade. Donc effectivement, c'est où je fous des coups de pied pour que ça monte haut. Ou alors je suis assez contente de voir quand ça bouge pas beaucoup finalement. Mais j'ai été élevée d'une manière terriblement nostalgique. Donc c'est vrai que c'est mon père qui me disait, je pense que nostalgie c'est la maladie du retour. C'est ça l'étymologie. Effectivement, j'ai une famille terriblement nostalgique. Donc ça, depuis l'enfance, on est assez conscient du temps qui passe et de la tristesse associée à ça finalement.
Loudoyon, un de vos premiers souvenirs d'enfance, c'est vous justement qui lisez l'heure sur votre montre de manière névrotique, c'est vous qui le dites. Oui. Vous notez l'heure et la date sur un bout de papier, vous vous mettez à pleurer et vous vous dites on ne sera plus jamais le 14 octobre 1987 à 14h.
Oui.
Vous avez peur de la mort, ça vous accompagne partout.
À tout le temps, ça me flingue. Je trouve les gens admirables de réussir à regarder l'heure sans être effondré, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez... je cours, je cavale en espérant faire du mieux avec le temps. Et comme les gens assez hystériques un peu, à force de cavaler, en fait, on est rincé, ce qui fait qu'on perd du temps à force d'être crevé, et on s'en veut encore et on se remet à cavaler. Donc c'est une cadence un peu compliquée. J'ai pas trop le choix. Les gens autour de moi non plus. Ils souffrent, je pense, parfois plus que moi. Mais c'est vrai que ouais, il y a envie de prendre tout ça en compte. Ouais.
En même temps, c'est un moteur, parce que s'il n'y avait pas un point final qui nous guettait, on ferait rien.
Absolument, et je pense qu'en plus, j'adore cette finalité aussi. Je sais que, je le dis souvent en concert, cette époque m'angoisse à mort, de ce désir d'immortalité, il est terrifiant. Heureusement que ça s'arrête, cette histoire. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est la plus grande tragédie du monde, et je trouve que c'est peut-être ça, finalement, qui nous fait si peur. Et des fois, je me dis, quand je vois notre malheur, surtout chez nous les Français, et en ce moment, c'est vrai que des fois, je me dis que je pense que... qu'il y a surtout une grande trouille de la mort qui se mélange à plein d'autres choses après. Mais je pense qu'effectivement, c'est une aventure insensée qu'on nous demande. On est sacrément valeureux et vaillant d'accepter ce deal, qui n'est pas un deal, d'ailleurs on n'a pas le choix. Donc ça m'émeut, et c'est vrai que j'aime beaucoup les êtres humains là-dessus. Le monde animal et végétal me plaît un peu, mais m'emmerde assez vite. Je préfère être sur une place de marché et voir les gens que regarder une belle montagne, effectivement.
Bon, alors soyons vaillantes dans l'heure qui vient, nous doyons avec vous, vous allez convoquer des gens qui luttent contre la mort, beaucoup d'entre eux sont morts, pas tous. Billy Wilder, il y a du blues, il y a du plaisir, il y a de la cuisine, du dessin, des lectures, Edna Saint-Vincent Milley, Peter Hanke, Marcel Sauvageau, Nina Simone, Fiona Apple, Egon Schiele, Hieronymus Bosch, Pierre Caron et la foule parisienne. Juste après, le titre Thérapie de Mathieu Chédid.
Je ne reconnais plus la maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? J'ai beau tout chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit: souris à la vie quand tu croises le bonheur. Si vite reparti, joue plus au chat, à la souris, cours plus après le bonheur. Quand il est devant toi, on cule du sourire. Voilà ma solitaire. La vie m'apprend et je prends conscience que tu es pourtant la juste ici, si près de moi. Quand je me dis oui chaque fois,
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Lou Doyon.
I love you, Miss Kubelik.
Three. Queen.
Did you hear what I said, Miss Kubelik? I absolutely adore you.
Shut up and deal.
1960, La Garçonnière de Billy Wilder. Avant de commenter la scène qu'on vient d'entendre, Loudoyon, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du film? Là, on entend Jack Lemmon et Shirley MacLaine.
Merveille.
Ils sont bouleversants tous les deux.
Ouais. C'est mon film préféré. Justement, chez Billy Wilder, le niveau de tendresse, de bienveillance et d'humanité est absolument incroyable. Donc c'est sur un pauvre type, c'est sur un employé de bureau et qui veut être un mec bien. Alors il se fait avoir par les types d'au-dessus qui au bout d'un moment comprennent qu'il est tellement benêt que finalement ils peuvent utiliser son appartement comme garçonnière. Et donc c'est tous les gens de l'immeuble, enfin tous les gens de son bureau qui utilisent son appart comme garçonnière, et il se retrouve évidemment avec une des petites qui est une fille d'ascenseur dont il est un peu amoureux et qui finalement se fait rejeter par un des grands patrons. Et c'est un film d'une beauté. Lui, quand il lui fait à bouffer, les scènes avec le psy d'à côté, quand ils lui font le café, ce film me flingue. Et donc cette fin merveilleuse de pudeur extrême, quand Jack Lemmon, qui est l'homme le plus pudique du monde, réussit enfin à dire « I love you, Miss Kubrick », ce merveilleux « Shut up and deal ».
Ouais. Parce qu'il joue au Gin Rummy, un jeu merveilleux que j'aimerais réhabiliter, mais peu de gens me suivent.
Je suis d'accord.
En préparant l'émission, Loudoyon, j'ai appris que c'est Tony Curtis qui était à l'origine de l'idée de ce film. Parce qu'il avait tellement de fans avec lesquels il couchait, qu'il couchait dans sa voiture, dans des parkings et chez un ami à lui. Et en fait, quand il a donné l'idée à Wilder, Wilder lui a dit « L'idée est géniale, mais tu es beaucoup trop beau pour le rôle ».
Très très bien, très très bien. Mais il y a un livre de conversations de Billy Wilder qui sont, je crains qu'il soit pas édité en français, mais il était tellement drôle, tellement tellement drôle.
Mais il a fait beaucoup de chefs-d'œuvre.
Ouais.
Mais pour revenir à ce film Loudoyon, on voit Jack Lemmon et Shirley MacLaine qui sont deux exploités dans le travail et sentimentalement. Et il y a des moments où on a envie de pleurer. Il y a des moments où c'est un mélodrame ce film.
Ah ben moi la scène quand enfin elle se rend compte, quand elle se retrouve dans le café pour le nouvel an et que d'un coup elle se met à courir vers Jack Lemmon, et c'est vrai que ce qui est tellement émouvant, c'est qu'elle a peur qu'il se flingue, et donc elle entend un tir, et même là elle projette que c'est quelqu'un d'assez hystérique, alors que ce qui est émouvant, c'est qu'il l'est même pas, c'était juste une bouteille qu'il ouvrait, parce que dans sa bienveillance et sa gentillesse, il allait juste quitter cet appartement qui lui fait trop mal. Mais c'est ça que j'aime, c'est que c'est en plus, il y a une grande bourgeoisie ou une grande aristocratie dans le drame. Ce qui est émouvant là, c'est que il y a quelque chose qui me plaît tellement d'une tristesse prolo, quoi.
Saison du plaisir nous entraîne dans la ronde, la ronde des désirs qui ne peut finir qu'en mourant de plaisir. Les saisons du plaisir nous entraîne dans la ronde. Tant qu'il est temps pour prendre du bon temps.
Les saisons du plaisir du groupe Les Doubles 6, pour illustrer, vous me voyez venir, Loudoyon, votre système de pensée anti-spleen, prendre du plaisir partout. Est-ce que vous y arrivez aisément?
Oui, ça y est, je suis presque totalement. Alors pour l'instant, je peux encore me faire pirater par les autres d'une certaine manière, mais seul j'y arrive. Je pense que là-dessus, j'ai rejoint un peuple qui me plaît beaucoup, parce que c'est un peuple qui a compris ça, c'est les Japonais. Je pense vraiment que j'ai une passion pour le Japon, parce que ça se joue là. Je veux dire, si on prend du plaisir partout, les choses ont du sens. On se fait beaucoup de violence parce qu'on n'a pas envie d'y prendre du plaisir. Moi, je vois faire un café à l'emballage d'un cadeau, ou à réorganiser quelque chose, ou nettoyer, faire la vaisselle. Dès qu'on a décidé que c'est quelque chose qui peut nous donner du plaisir, voire même de la fierté, moi je prends du plaisir toute la journée. Je cherchais un mot d'ailleurs, en me disant, est-ce que je suis devenue, je sais pas, auto-érotisée, ou je saurais pas comment dire, mais quelqu'un où effectivement j'ai toujours un bouquin dans mon sac, j'ai toujours, si les gens sont en retard, c'est vraiment pas grave, j'ai plein de trucs à faire, enfin ça rend effectivement tout beaucoup plus léger.
Vous avez répondu, Loudoyon, ça y est, j'y arrive enfin. Ça veut donc dire que ce n'était pas du tout le cas au début. Vous vous êtes entraîné à cela?
Oui. Là, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'effectivement, j'ai un agencement particulier, ce qui fait que, comme souvent d'ailleurs dans les familles, il y en a un qui, chacun a des rôles à prendre, et c'est vrai que moi, je pense que j'ai pris un rôle d'être infirmière, fan, assistante, et donc c'est pas un rôle qui protège. finalement. Et maintenant, ça y est, enfin à 37, oui, j'ai décidé d'être mon infirmière et mon assistante à la limite, mais...
Bravo.
Plus celle des autres.
D'où provient l'essentiel de vos plaisirs, Lou Doyon ?
Je pense que c'est la lecture.
Oui, on va en parler, parce que ouais. Vous êtes une grande lectrice.
Je pense que c'est ce qui fait qu'on est, on n'est plus du tout seul, je suppose. Et je pense que dans ma peur du temps qui passe, dans ma peur de ne pas vivre tout le temps, grâce à la littérature, j'ai été un homme, j'ai été une femme, j'ai été un bourreau, j'ai été une victime, je suis morte plusieurs fois, j'ai vécu dans d'autres mondes. Enfin voilà, ça nous permet d'être multiples.
On peut même être un chien si on lit Virginia Woolf.
Exactement, ouais.
J'imagine, Lou Doyon, que vous prenez aussi du plaisir dans les activités que vous nous avez indiquées. Il y a la cuisine, le dessin, la lecture. Et vous dites, ça dépend du blues. Alors, quelle activité pour quel type de blues? Le dessin, par exemple, quel type de blues appelle-t-il?
Le dessin, c'est quand je m'aime pas beaucoup, mais qu'en même temps, j'ai pas la force de comprendre trop et j'ai pas grand-chose à dire. Alors, c'est un moment de... qui demande beaucoup de concentration, mais qui en même temps laisse tomber le soi. C'est vraiment un moment d'observation. Donc c'est très agréable, c'est juste suivre les lignes, les courbes, et c'est comme un autre langage, d'une certaine manière.
Vous dessinez depuis l'âge de 10 ans,
ouais.
Et vous avez un journal intime dessiné depuis l'âge de 12 ans,
ouais.
Que vous tenez encore.
Ouais.
Vous avez aussi fait un livre de dessin aux éditions Astier de Villatte Drawings.
Ouais.
C'est 60 dessins à l'encre et beaucoup vus d'au-dessus.
C'est ça.
Donc ça permet de prendre une distance par rapport au réel.
Oui, et en même temps, j'aime le commun, en fait. Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est les choses communes. Et ça m'amusait de ce que j'appelle les visions from above, c'est les dessins que je fais à main levée de ce que je vois d'un bout de pull, d'un bout de bide et de sûrement des guiboles qui paraissent très grandes au début et qui se rapetissent sur des tout petits pieds, enfin comme ce qu'on voit tous de chacun. Et j'aime bien ça. J'avais un journal, à un moment donné, je collectionnais les plumes de pigeons, ce qui faisait rire tout le monde, parce que c'est toujours les mêmes, mais c'est ça qui me plaisait. Donc bon, c'est toujours la même plume, mais il y a écrit Tokyo, Miami, enfin, où qu'on soit, finalement, c'est le même pigeon, d'une certaine manière. Et dessiner mes mains ou mon corps, c'est vrai que c'est une manière de m'ancrer dans le temps, je suppose, de prouver que j'ai existé.
D'archiver
le réel. Sûrement. Et puis, de l'autre côté, c'est presque ça le plus important d'une manière. On voyage assez peu, on est tout le temps coincé dans notre corps et dans notre tête. Donc j'aime bien assumer ça, dire que finalement le monde change, mais les mains changent moins, elles vieillissent doucement et ça m'amuse de voir ça.
D'ailleurs, vous faites un grand dessin de mains qui se touchent dans le clip It's You en duo avec Cat Power. Vous arrive-t-il de faire des dessins d'imagination, Lou Doyon ?
Très peu. Très peu. Je faisais ça quand j'étais ado, comme tous les ados, où j'étais pote avec des graffeurs, et donc je faisais beaucoup de typos, finalement, ou de manga japonais. Mais je suis pas très costaud en imagination, en fait. Je me rends compte que c'est plus... j'ai besoin... Il y avait une phrase qui me plaisait beaucoup, c'est Céline qui disait ça, qui utilisait comme exemple sa mère, comme dentelière, et qui disait qu'il avait l'impression, en se mettant au travail, qu'il essayait juste de résoudre, d'une certaine manière, ou de recoudre des choses un peu blessées qui étaient sur sa table. Moi, j'ai un peu la même impression, qui j'essaye de découdre, de ranger. J'ai un côté un peu vierge, un peu hystéro, de vouloir tout mettre à sa place. Et on vit dans un... Et particulièrement le mien, c'est un monde tellement bordélique que je suis très insomniaque, il faut que je range les choses. Et donc j'ai l'impression que ce métier de rangement, c'est pas un métier qui donne beaucoup de place à l'imagination, d'une certaine manière. Je suis déjà effondrée par la réalité. Même mes rêves sont terriblement réels et m'effondrent. Donc non, il y a des gens qui ont une grande capacité d'imagination que j'admire, mais j'en fais pas partie. Mais
alors, il vous arrive, Lou Doyon, de mélanger parfois les choses quand vous faites la cuisine, par exemple. Ouais. Alors, j'aimerais savoir le type de blues associé à la cuisine et si vous avez une recette là, simple à nous livrer.
Alors la cuisine, ça c'est merveilleux parce que c'est vraiment le grand rangement pour le coup. Donc ça demande, même si je suis rincée de fatigue, là je vois en tournée, on revenait en bus le matin du dimanche. Donc souvent on est parti le lundi, on a joué le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc on revient rincé, tout le monde part se coucher et moi effectivement je vais direct au marché. Et puis je fais les courses et là c'est parti pour cuisiner la journée entière du dimanche. Parce que là pour le coup je range tout. sans y penser, de faire des choses mécaniques. Alors beaucoup de découpage, de prepping, comme disent les Américains. Et ça dépend, j'aime bien les choses qui sont cuisinées très lentement. Je suis la dernière à faire de la viande rouge et des trucs comme ça, parce que ça demande rebelote, un instinct ou une imagination. Moi, je suis bien plus procédurière, donc je peux faire de la pâtisserie très compliquée, de faire des choses qui nécessitent des heures et des heures de cuisson, d'arrêt. Donc, par exemple, le pulled pork, le porc à l'effilocher est une de mes spécialités du dimanche. Et les bouillons, je suis une fanatique de la récupération. Et pour les enfants, c'est assez joyeux, ils me voient cuisiner toute la journée un poulet le dimanche, et après on récupère tout, je récupère le gras, je récupère les os, enfin absolument tout, pour en faire des bouillons plusieurs jours à venir. Je fais rire mon boucher qui n'en revient pas que je garde absolument tout, maintenant je garde même les têtes et les pieds.
Wow.
Pour faire les bouillons, ouais, les gens pensent que je suis une sorcière. Les enfants hurlent parce que vraiment une patte de poulet qui sort d'un bouillon, c'est très Halloween, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, j'adore. Et après, je resépare et je fais des petits Tupperware avec le sein doux, le gras que j'ai gardé de ma dinde, du truc que je vais pouvoir malicieusement mettre le lendemain sur une pomme de terre. Et voilà, ça me met, comme vous pouvez l'entendre, dans un état d'exaltation. Ouais, ça me plaît beaucoup parce que c'est logique, c'est carré, c'est extérieur à moi. Et en plus, j'aime aimer beaucoup, et c'est une des manières les plus limpides d'aimer les gens. Leur faire à manger, faire manger les gens, faire danser les gens, je pense que c'est les deux choses que je préfère, et j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire les deux.
Et alors, lorsque vous êtes seule, Lou Doyon, vous lisez, vous êtes une grande lectrice, et vous dites que quand vous allez mal, ce sont les livres qui vous font tenir debout. Il m'est arrivé de changer le cours de ma vie à la suite de la lecture d'un roman Jude l'Obscur de Thomas Hardy et La fin d'une liaison de Graham Greene. Les livres vous changent.
Ah oui, c'était terrible, parce qu'effectivement j'ai lu ces deux livres-là, et puis je suis rentrée là où j'habitais avec quelqu'un, j'ai fait ma valise et je suis partie. Et je peux difficilement expliquer pourquoi, à part, il y avait quelque chose qui s'est passé dans ces deux livres-là. Alors les deux sont une merveille, Jude the Obscure, moi qui suis à moitié anglaise et qui souffre, comme tous les anglais, d'un rapport à la culpabilité qui... qui est absolument insensé, si on est de nature un peu coupable. Waouh, Thomas Hardy, là, le niveau de culpabilité est décuplé, et puis ça va mal, ça va finir très très mal, c'est comme ça. Donc ça, effectivement, ça retourne, et La fin d'une liaison, merveille, de comment on peut rater sa vie, comment on peut mettre l'amour au mauvais endroit, finalement. Et c'est vrai que ces personnages un peu de femmes qui souffrent, finalement, qui vont prendre sur elles, c'est mes préférées, je pense.
Et il va y en avoir beaucoup d'autres, des femmes qui souffrent, ouais, dans vos remèdes, ouais, Doyon.
Mais qui sont costauds.
Oui.
Qui sont jamais victimes. Moi, c'est pour ça, c'est ma préférée, c'est Elisabeth en Angleterre. Voilà, j'aime les gens comme ça, de se dire que c'est notre mission, qu'on va le faire, et que là-dessus, on peut être terriblement costaud.
Vous avez sélectionné, on l'espère, deux jolis textes comme remède littéraire. On les découvre dans un instant, juste après un titre de votre dernier album, le morceau Brother.
Brother, where have you gone? See you serious, you have become plain martyr and executioner in the name of your absent father. Or so you claim. Brother, what have you done? Take a knife and shooting at your sons. Why so threatened by the trivial? Why so cold and literal? Or so it seems. Cause we need fiction. Yes, we need. Oh, give us tales and mystery. Cause we need song. Oh, give us dance. We need love and innocence. Brother, against whom these walls? Don't you know that all that rises shall fall? And no bricks shall ever dissuade. See us climb above the barricades once again. Hey sister, where are we heading? We're lonelier than ever, just look at us trying. This competition is insane. We're all convinced we're losing the game. Oh, so
À la mélancolie sur France Inter en compagnie de Lou Doyon qui nous fait découvrir ses antidotes littéraires. Il y a tout d'abord un court poème de la dramaturge et poétesse américaine Edna Saint-Vincent Milley. Ça s'appelle First Fig et c'est paru dans la revue américaine Poetry en 1918. Est-ce que vous pourriez nous le lire, Lou Doyon ?
Ouais. My candle burns at both ends. It will not last the night. But oh my foes and ah my friends, it gives a lovely light.
Alors je vous traduis. Approximativement, ma bougie brûle des deux côtés, elle ne passera pas la nuit, mais ô mes ennemis et ah mes amis, sa lumière est magnifique. Il y a l'idée d'être dans l'instant, de prendre plaisir dans tout, mais aussi de la vie qui se consume très vite, mais brille malgré tout d'un bel éclat.
Ouais.
Ça rejoint tout ce que vous disiez tout
Exactement.
À l'heure.
Exactement. Je pense que j'hésite encore, parce que j'ai de la chance de lire souvent des merveilleuses choses, mais je me suis dit, s'il m'arrivait quelque chose demain, si c'est ça qu'on pouvait mettre sur la tombe, ça m'irait assez bien. J'aime beaucoup cette idée et de la générosité aussi, de la drôlerie, de savoir grâce à qui on avance aussi. Et c'est pas pour rien que les foes sont avant les friends.
Les ennemis.
Oui.
Vous nous avez aussi parlé, Lou Doyon, d'un extrait de la pièce de 1981 Par les villages du lauréat du prix Nobel de littérature 2019, l'Autrichien Peter Hanke. Il y a un texte très très beau que vous nous avez envoyé, extrait de cette pièce.
Alors moi, il est dans ma salle de bain. Je le lis presque tous les jours. Et effectivement, c'est un amoureux qui me l'a envoyé quand j'allais très mal, en me disant, écoute, je pense que ça peut te plaire. Et depuis, c'est devenu, mais vraiment, dès que ça va mal, je lis et je trouve que ça nettoie. Ouais.
On vous écoute.
Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention. Évite les arrière-pensées. Ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin, interviens et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant. Sois ébranlable, montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond, prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer, échoue avec tranquillité. Surtout aie du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire, mets-toi pour ainsi dire en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus. Penche-toi sur les détails, pars où il n'y a personne. Fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis.
Magnifique texte de Peter Hanke. Il y aura évidemment les références sur le site internet. C'est un guide existentiel plein de paradoxes, Lou Doyon. Pas facile à mettre en œuvre.
Pas facile du tout, et en même temps, on sent la justesse de ce qui est dit. Effectivement, de se dire, de se mettre dans ses couleurs, de prendre le temps, de passer par les visages. Elle est tellement jolie, juste cette idée-là de dédaigner un peu ce qui se passe autour aussi, d'oublier d'où on vient et tout ce bordel-là, et de peut-être prendre du plaisir aussi, quelque part. Mais j'aime bien, laisse-toi distraire, échoue avec tranquillité. Tout ça fait un bien fou, je trouve.
Il y a des romances qui commencent comme votre lettre. Vous que j'ai tant aimé. Ce temps du passé, quand résonne encore si proche le présent, est triste comme les fins de fête, lorsque les lampes s'éteignent, et qu'on reste seul à regarder partir les couples dans les rues sombres. C'est fini, on n'a plus rien à attendre, et pourtant on reste là indéfiniment, sachant que rien ne viendra plus.
Elsa Zilberstein interprète l'unique texte de la professeure de littérature Marcel Sauvageau, Laissez-moi, au Théâtre des Bouffes du Nord, dans la mise en scène de Laetitia Masson. Votre citation Béquille Loudoyon vient de ce texte, oui. Écrit à la suite d'une déception amoureuse. On y revient.
Tiens.
Ouais. Pouvez-vous, d'abord, avant qu'on découvre la citation, je suis en train de faire une aguiche, présenter l'auteur et cet ouvrage?
Alors c'est un texte, moi je le connaissais absolument pas et je suis tombée dessus parce qu'il y avait, ce qui prouve que des fois on achète des livres pour des raisons très très frivoles, il y avait une collection qui m'intriguait parce que les Anglais ont tendance à faire ça, les Français un peu moins, de petits bouquins d'un coup reliés en cuir. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe avec cet étrange titre « Laissez-moi ». Alors là, je me suis dit, Et puis ce nom assez dingue, donc de Marcel Sauvageau, je me suis dit, tiens, il y a une certaine violence là-dedans, on va voir ce qui s'y passe. Et donc je l'ai lu d'une traite, c'est une chose très étonnante parce que c'est... Ça pourrait être comme une sorte de lettre qui serait envoyée à celui qui la quitte et qui en même temps, au fur et à mesure de l'écriture, s'avère être une lettre pour elle et puis finalement une lettre à ne pas envoyer parce que finalement elle se rend compte, mais ça c'est là où elle rejoint toutes mes copines, d'une certaine manière, toutes mes copines dans ma bibliothèque, de se réapproprier sa propre douleur. Et ça, c'est le moment qui me plaît le plus. C'est le moment où on se dit, finalement, elle est à moi, ma douleur. Et que la personne en face nous aime ou pas, finalement, je trouve que ça m'intéresse assez peu. De savoir que moi, j'ai pu aimer, me plaît bien plus.
Et finalement, on reste entier, il ne nous enlève rien.
Ouais.
Cet être absolument. Qui quitte.
Absolument.
Ce livre est paru en 34, l'année de la mort de Marcel Sauvageau, qui est morte à 34 ans. Elle faisait beaucoup de séjours dans des sanatoriums, c'était une ancienne tuberculeuse. Et la phrase... qui vous appuie, je donne quand même la réponse à mon avis, c'est « je me suis revenue
ouais. »
comme « je me suis retrouvée
ouais. ». C'est quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est je me la suis tatouée à l'intérieur du... sur le bras, avant de
venir dans l'émission, parce que vous faites les choses vraiment...
Non, avant d'enregistrer le dernier album où je sentais qu'il fallait que ça soit un peu clair dans ma tête. Et donc, effectivement, ça me plaît parce que, alors, je fais pas partie de ces gens qui trouvent qu'on est né merveilleux et qu'après, cette obsession un peu de yogi aujourd'hui de se dire, voilà, que à notre true self, ou je sais pas quoi, ça, j'y crois très peu, ça m'intéresse pas du tout qui je suis, mais qui je vais devenir m'intéresse bien plus. Par contre, cette idée de je me suis revenue, c'est peut-être l'idée de se rappeler, en tout cas pour moi je l'ai pris comme ça, du moment où il y avait une force et une défiance adolescente, bien sûr, et où au bout d'un moment on se met à devenir une petite dame qui accepte les compromis. Et je me suis dit, flinguons la petite dame. Mais comme Virginia Woolf qui dit qu'il faut tuer the angel of the house, j'ai pas fait gaffe, j'ai failli le devenir. À un moment donné, on devient sympathique et puis poli et puis complaisante et là on s'éloigne de l'animal peut-être. Donc il y a eu un désir de redevenir femelle, je pense. Ouais.
Revenons-nous avec ouais. L'aide d'autres femmes puissantes. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. En 1965, la chanson Feeling Good, reprise par Nina Simone, chanson écrite en 64 par Anthony Newley et Leslie Bricusse pour la comédie musicale The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. Qu'est-ce qui résonne chez vous, Loudoyon, à l'écoute de cette chanson?
Elle, bien évidemment, qui est tout, qui a absolument tout dans la voix, dans la tête et la rage, et puis la tendresse, et puis la générosité absolue, évidemment. Mais je pense que ce qui me plaît, c'est ce qu'on se disait, c'est que c'est une décision personnelle. That she's feeling good. celle qui l'a décidé. Ouais. Et on sent très bien que c'est vraiment ça, qu'il n'y a rien d'autre qui... C'est une décision à soi, finalement. Et je pense que c'est là-dessus où des fois je trouve l'époque très intéressante sur les femmes. On est en train de se poser plein de questions, et des bonnes et certaines qui sont paradoxales aussi.
Femmes ont-elles des âmes?
Non, celle-là, normalement, on devrait être passé, on devrait être assez garanti que oui. Non, mais cette idée de se dire qu'effectivement le désir de la perfection, on nous l'impose et en même temps on le désire aussi.
On se l'impose aussi.
On se l'impose beaucoup. Et donc de trouver la ligne entre qu'est-ce que c'est que de se plaire ou de plaire à l'autre. Voilà, là c'est pas encore très clair ce truc-là.
Vous avez fait un autre choix, Loudoyon, c'est un titre de 99, c'est Get Gone de Fiona Apple. Au sujet de laquelle vous dites dans une interview qu'elle vous rend assez fortiche, et quand on commence à me gonfler un peu en face, de pouvoir chanter Get Gone, ça me fait beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui vous fait tenir, Fiona Apple, comme Leonard Cohen ou Chet Baker.
Absolument. Mais surtout, de les garçons, je ne sais pas pourquoi, j'aime pas faire des résumés, donc excusez-moi, oh les hommes qui m'écoutaient, mais il y a quelque chose où la furie féminine m'impressionne beaucoup plus que celle des garçons. Et quand une fille a décidé, surtout dans la musique, ces filles-là, mon Dieu, qu'on n'a pas envie de se mettre en chemin. Et moi, je pense qu'ils sont charmants et presque féminins, les grands chanteurs de rock ou de glam que j'adore, et dragueurs. Et alors que les filles, mon Dieu, quand elles y vont, se disent c'est terrifiant. Et d'ailleurs, je le vois, il y a plein de gens ont du mal avec Björk, avec Fiona Apple, parce que ça réveille quelque chose. Et effectivement, moi, avant une réunion de famille, si j'écoute ça peut partir en vrille 2 secondes après. Parce que c'est vrai que là, dernièrement, j'avais des choses qui me gonflaient. Je me réveillais avec cette merveilleuse phrase de Björk. If either of you complain once more, you'll get an army of me. Et je me suis dit, c'est ça.
Si l'un de vous se plaint encore une fois, ouais, vous aurez affaire à une armée de moi.
Ouais. Et ça, effectivement, c'est assez clair. Et c'est rare que ça soit des garçons qui partent dans quelque chose d'aussi radical que ça, finalement.
C'est vrai qu'une armée de Björk, c'est une menace.
C'est une vraie menace. Et Get Gone, Fiona Apple, c'est une merveille. C'est une merveille.
Eh bien, on va l'écouter. Et dedans, ouais, il est aussi question de rupture, non, mais d'une histoire d'amour douloureuse, puisqu'elle dit dedans, il est temps que la vérité soit dévoilée, qu'il s'en fout de moi. On l'écoute.
How many times do I have to say to get away, get gone? Flip your shit past another lass's humble dwelling. You got your game, made your shot, and you got away with a lot, but I'm not turned on. So put away that meat you're selling, 'cause I do know what's good for me, and I've done what I could for you, but you're not. Escalate
till it elevates to a place I can't breathe. And I must decide if you must arrive, then I'm much obliged to up and go. I'll idealize and realize that it's no sacrifice because a price is paid and there's nothing left to grieve. Fucking go. Cause I've done what I could for you, and I do know what's good for me, and I'm not benefiting. Instead I'm sitting, singing again, singing again, singing again. Sing, sing, sing again. How can I deal with this if he won't get with this? Am I gonna heal from this? He won't admit to it. Nothing to figure out. I gotta get. Puts out that he don't give a shit about me. How can I deal with this if he won't get with this? Am I gonna hear from this? He won't admit to it. Nothing to figure out. I gotta get him out. It's time the truth puts out that he don't give a shit about me.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Lou Doyon. Reparlons dessin, si vous le voulez bien, en évoquant ceux du peintre, poète et dessinateur autrichien Egon Schiele. Qu'est-ce qui vous plaît dedans ? Il y a beaucoup d'érotisme, mais il y a vraiment Eros et Thanatos. Il y a une violence, des corps torturés.
Ah ouais, il y a des nœuds. Il y a des nœuds de partout. Tout est très noueux. Et en même temps, je pense que... Je m'étais rendu compte de ça une fois en me disant, c'est rigolo, je pense qu'on est attiré souvent dans l'art. Finalement, on cherche notre famille, je pense un peu. Je me rappelle justement, c'était Elsa Lieberstein qui parlait de son peintre préféré, qui était Modigliani, et elle en parlait, elle était devant, et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, elle ressemble à un Modigliani. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder les gens qui parlent de leur tableau préféré. Et en fait, 9 fois sur 10, on est dedans. Donc effectivement, je pense que familialement et familièrement, j'appartiens à des corps plus du côté de Schiele que de Botticelli, par exemple. Mais je pense que ce que j'aime aussi, c'est sa manière de se mettre à son propre travail, finalement. Il accepte cette violence-là sur lui. D'ailleurs, les autoportraits sont merveilleux. Mais j'aime autant ses dessins de ville, la nuit, ou même dans les toits et les maisons, on retrouve sa manière de voir les choses qui est saccadée, sèche. Et puis, je pense aussi que ce qui me plaît le plus, c'est l'équilibre. Là, je rejoins les Japonais d'une certaine manière, ou la musique que je fais. J'aime systématiquement le relief et de s'arrêter avant, d'une certaine manière. J'aime pas le remplissage, j'aime pas le coloriage, j'aime pas ce qui remplit de partout. J'ai du mal avec la musique aujourd'hui parce que il y a tout le temps du son, en fait. Moi, je trouve que la musique, c'est juste travailler avec le silence. Et la peinture, c'est travailler avec le vide, finalement. Le vide, il est plein. Et Schiele, ça m'a toujours intrigué, le moment où il décide de s'arrêter. La majorité des tableaux sont ce qu'on dirait, les gens diraient, pas finis, d'une certaine manière. Mais je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Et sinon, j'aime les études ou les dessins. Je sais que j'adore les dessins de Vinci. Je suis moins fan des tableaux finis, finalement. Je pense que j'aime les esquisses et j'aime la ligne dangereuse, finalement, quand elle n'est pas encore... insister, protéger, et qu'elle avance pas avec toutes les couleurs qui sont là pour la mettre en scène. J'aime bien les choses qui avancent comme des cutters un peu. Donc c'est vrai que le trait de Schiele, c'est comme un cutter. Il décide très précisément là où ça coupe.
Vous avez pourtant aussi choisi, Lou Doyon, les tableaux de Bosch qui sont remplis. C'est une profusion de créatures, d'étrangetés, d'hallucinations.
Ouais. Mais pour le coup, il nous manque tout. Il nous manque toutes les informations. Le plus gros mystère est quand même que depuis 400 ans, personne n'arrive à comprendre. Alors il y a ceux qui disent non, mais finalement, il dessinait des proverbes. Il y en a d'autres qui disent oui, mais non, mais c'est vrai que c'est très délirant. Et là, c'est par nostalgie. Quand j'étais petite, mon oncle, qui est une personne très étonnante, avait décidé de faire son long couloir en Angleterre, qui était dans le noir, dans un immense appartement, n'était que un papier peint fait sur mesure pour lui de Hieronymus Bosch. Donc en grandissant, chaque année, j'arrivais dans un nouveau tableau d'une certaine manière. Donc j'avais tous ces personnages dingues avec deux jambes, une flûte qui sort genre du cul, en même temps, pourquoi, me dis, je regarde ça en me disant, mais pourquoi? Et alors là, le grand mystère de l'être humain m'a été révélé, mais je pense que c'est plus de l'ordre, effectivement, de la nostalgie, et puis du mystère. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est le mystère qu'il y a autour.
Je vais essayer de provoquer l'ovale du visage, ou le cercle du visage, ou ce qu'on veut, pour essayer de voir par où il va aller, comme un personnage que je ne connais pas. Je vais essayer d'être très attentif pour voir quelle tournure il va prendre. Parce qu'à partir du moment où je pars de l'élément, par exemple, de la bouche, la façon dont vont se dessiner les lèvres, l'espace dégagé pour les dents, ça va déjà déterminer un caractère.
J'ai oublié de vous prévenir qu'il y avait une sonnerie de téléphone très angoissante et je voulais dire aux auditeurs, si vous avez un café dans les mains, posez-le avant l'archive. Je pense que c'est trop tard. Alors je vous présente mes excuses, chers auditeurs. On entend l'extrait d'un cours de peinture à l'huile donné par le peintre et sculpteur Pierre Caron en 2017, intitulé « Ceinturer le format et tracer le visage ». Lou Doyon, vous avez choisi son œuvre. Il y a aussi une étrangeté à nouveau qu'on retrouve dans ces tableaux.
Oui. Effectivement, et quelque chose de l'école de Balthus, un peu, d'avoir...
Qu'il a rencontré à la Villa Médicis,
absolument,
d'ailleurs.
Absolument. Et c'est vrai, c'était un, ben, c'est son fils qui fait partie de Astier de Villat et on s'est retrouvés dans des conversations merveilleuses parce qu'effectivement, c'est très ancien comme manière d'aborder, la peinture, le tableau. C'est inspiré par les bas-reliefs, par finalement toute l'origine de la peinture. Et c'est vrai que je suis totalement autodidacte, donc je suis toujours fascinée par des gens qui peuvent inscrire quelque chose dans une histoire, déjà, qui peuvent en parler bien mieux que moi et qui sont capables de transmettre aussi. Je pense que ce qui m'émeut aussi, c'est les transmissions et dans l'art, c'est ce qui nous reste. Dans les autres métiers, ça souffre pas mal de moins en moins de transmissions tellement les choses bougent. Et c'est vrai que si je pouvais aller à l'école encore aujourd'hui, j'aimerais beaucoup. Je trouve ça merveilleux d'avoir des professeurs et de se mettre à leur... d'apprendre, oui, si j'avais pu être comme tous mes peintres préférés, si j'avais pu être, comme on disait déjà, être... c'était au-delà du stage, on était leur pupils.
Mais apprenti comment...
Ouais, j'aimerais bien être apprenti, j'aimerais beaucoup. J'essaie toute ma vie d'être apprenti, je pense.
Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Lou Doyon.
Merci de l'avoir merveilleusement préparé, merci beaucoup.
Votre dernier album, Soliloquy, est chez Universal. Et pour les prochaines dates de concert, je renvoie les auditeurs vers votre site loudoyon.fr. Je rappelle aussi que vos dessins sont parus aux éditions Astier de Villat. Ça s'appelle Drawings. Et toutes les références seront évidemment sur le site internet, comme la programmation musicale. J'espère, chers auditeurs, que votre humeur est aussi flamboyante qu'un popcorn à coiffe Lorraine. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.